Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Vortès
107 FM.
Chers auditeurs de Radio Vortès, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Ça y est, c'est la rentrée. Donc on se retrouve avec une nouvelle saison, pour une nouvelle saison, avec Aymeric Sulmon, qui est garde-moniteur au Parc National des Cévennes.
Bonjour.
Avec Virginie Guiroy, qui est animatrice de la charte forestière Pays des Cévennes.
Bonjour, bonjour.
Et Margot Le Petit, animatrice pour la charte forestière Sud-Lozère. Et donc voilà, on se retrouve tous ensemble. Alors on se fait un petit rappel, a eu lieu donc en juin 2023 la fête de la forêt des Cévennes. C'était le 16 juin à la Grand Combe. On a eu à peu près 1000 visiteurs, donc vous en faisiez peut-être partie. Et donc vous pourrez retrouver les photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, fête de la forêt des Cévennes. Et pour vous annoncer d'ores et déjà, en 2025, rendez-vous pour la prochaine édition de la fête de la forêt au Vigan.
Aujourd'hui, on a un invité lozérien, Jean-Yves Magot du CNPF, bonjour.
Bonjour.
Et on va parler de santé des forêts, parce que tu es technicien forestier donc au Centre national de la propriété forestière et aussi correspondant observateur santé des forêts en Lozère. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est le CNPF et ce que tu y fais ?
Alors le CNPF, intégralement, ça veut dire Centre national de la propriété forestière. C'est un établissement public qui existe depuis une soixantaine d'années, qui a été créé à la suite de ce qu'on appelait les eaux et forêts. Il y a eu une séparation entre la forêt publique, qui aujourd'hui est sous l'égide de l'Office national des forêts, de l'ONF, et la forêt privée avec le CNPF. Donc nous, en tant qu'établissement public, on est là au service des propriétaires forestiers privés. Donc nous n'intervenons pas sur le domaine public, uniquement en forêt privée, en tant que conseiller forestier et pour favoriser la gestion durable des forêts.
Et donc comme le disait Margot, tu es aussi correspondant au département santé des forêts. En quoi ça consiste ?
Alors effectivement, le département de la santé des forêts, c'est une organisation créée en 1989. Donc voilà, qui a un certain nombre d'années derrière elle, et notamment suite aux épisodes de au phénomène de rougissement des forêts dans l'est de la France, où il y avait eu pas mal de dégâts. Donc cet organisme a été créé, et depuis, on est étalé sur tout le territoire national. Donc tous les départements de France ont une petite antenne santé des forêts. Donc nous, techniciens correspondants observateurs, on est là pour faire remonter les problèmes sanitaires que l'on peut observer en forêt. Alors soit que l'on voit nous-mêmes, soit qui nous sont signalés par les gestionnaires forestiers, par les propriétaires.
Et en Lozère, vous êtes combien ?
Alors en Lozère, on est trois correspondant observateur de la santé des forêts. Il y en a deux pour l'Office national des forêts et un pour la forêt privée, donc moi-même.
Et dans le Gard, je crois que c'est...
Dans le Gard, je crois qu'il y a un représentant pour la forêt privée, qui est ma collègue Christine Boyer du CRPF Gard, et également un technicien de l'Office national des forêts. Souvent, dans tous les départements, il y a un binôme forêt privée, forêt publique. Bon, Lozère, on est trois, c'est une question d'organisation de l'ONF, mais il y a toujours ce binôme forêt privée, forêt publique.
Et du coup, tu as parlé de problèmes sanitaires, vous les détectez, vous les mesurez. Qu'est-ce qui peut amener à avoir un problème sanitaire ? Qu'est-ce qui peut faire dépérir un arbre ? Qu'est-ce qui peut le fragiliser ?
Y a pas mal de choses qui peuvent le conduire éventuellement jusqu'à la mort. C'est vrai que souvent, la santé des forêts, elle va quand même de pair avec la station forestière et le climat. Et effectivement, tous les végétaux, pour pousser, ils ont besoin d'eau, enfin, en tout cas la majorité, les arbres, c'est le cas. Bien souvent, les déficits hydriques sont à l'origine de problèmes sanitaires plus importants. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que les conditions météo jouent beaucoup sur la santé des arbres et de nos forêts. Après, bien sûr, on a tout le cortège des ravageurs, hein, que ça peut être des insectes, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, des virus. Mais on considère quand même qu'un arbre qui est en bonne santé, qui pousse qui est dans des bonnes conditions de croissance, bien souvent, il est plus résistant qu'un arbre déjà affaibli. Donc, ces arbres déjà affaiblis, parfois, sont attaqués par des insectes, des champignons qui continuent à les faire dépérir, voire qui conduisent à la mort des arbres.
Et du coup, sur nos territoires de charte forestière, sur le sud de Lozère ou sur le pays des Cévennes, le nord du Gard, quelles sont les essences forestières qui sont les plus préoccupantes en termes de risques sanitaires, en termes de dépérissement ?
Aujourd'hui, je pense que tous les Cévenols constatent malheureusement l'état assez mauvais, voire lamentable de nos châtaigneraies. Mmh. Donc c'est vrai, quand on pense aux Cévennes, on pense aux châtaigniers, et malheureusement, dans la plupart des cas, il n'est pas en très bonne santé. Mmh. Donc c'est une des essences vraiment qui est préoccupante pour l'avenir. Hein. La deuxième, qui est plus en altitude et qui a été implantée, notamment en Haute-Cévennes, c'est l'épicéa commun, qui lui, dans le nord-est de la France, en région Bourgogne-Franche-Comté, on a eu des dépérissements très 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 importants, massifs, de cette essence-là, notamment dû à un scolyte qui s'appelle le typographe. Et chez nous, en Lozère, ces peuplements d'épicéas, on les tient sous haute surveillance parce que on est, on va dire, un petit peu à la limite de la bascule. Mmh. Pour le moment, ça tient plus ou moins le coup. On a quelques spots de scolytes, mais notre crainte, c'est de voir ces petits spots s'élargir et devenir des dépérissements plus massifs. Donc aujourd'hui, on est encore dans un état, on va dire, acceptable pour ces épaissières, mais on craint beaucoup pour l'avenir, notamment dans le cadre du réchauffement climatique et de ce que l'on nous annonce pour le climat de demain.
Merci.
Et alors, comment vous détectez un problème sanitaire? Comment vous détectez qu'un arbre est mal en point? Est-ce que, du coup, tu disais qu'il peut y avoir des remontées, peut-être d'autres collègues, d'autres forestiers? Vous faites aussi des tournées pour évaluer ce risque-là?
Alors effectivement, donc il y a une surveillance qui est, on va dire, quotidienne, hein, du territoire au cours de nos tournées forestières, etc. On regarde ce que l'on voit d'anormal dans les paysages forestiers. Et puis, on a aussi des remontées de propriétaires ou de gestionnaires qui nous disent, à tel endroit, j'ai un souci avec une essence en particulier. Et donc là, on se rend sur place, on essaye de diagnostiquer et de voir quelle est l'origine du problème.
Pour toi, quels sont les signes qui montrent qu'un arbre n'est pas en bonne santé ?
Il y a un petit peu de choses. Il y a la couleur de l'arbre, hein. Il y a différentes nuances de vert dans les houppiers des arbres, mais donc il y a la coloration du houppier qui est une première alerte, et puis il y a également l'apparition de symptômes tels le dessèchement de rameaux, de branches, et la perte de feuilles ou d'aiguilles. Un arbre qui est peu feuillé ou avec peu d'aiguilles, c'est un arbre qui est a priori en souffrance. Après, parfois, de loin, il y a des choses qui peuvent passer complètement inaperçues. Je faisais allusion tout à l'heure au scolyte de l'épicéa, le typographe. On arrive à trouver assez fréquemment des arbres qui ont encore tout le houppier vert et qui pourtant, sur lesquels l'écorce tombe du tronc. Donc ça veut dire que l'arbre, il meurt, mais il y a un instant T où on passe et on ne regarde que le houppier. Mais en fait, le houppier, il est encore complètement vert alors que l'arbre est en train de dépérir. Mais voilà, les deux choses, deux ou trois choses, c'est la coloration de l'arbre, la présence de branches sèches dans le houppier, et puis le manque d'aiguilles qui nous indique qu'un arbre n'est pas en bonne santé. Après, on peut avoir d'autres symptômes. Hein. On peut avoir des pralines, des perforations de scolytes sur l'écorce.
Des pralines, c'est les perforations.
Alors, les pralines, si tu veux, c'est l'exudat de sève, de résine. C'est le moyen de défense de l'arbre. Il se fait attaquer par un insecte, il va essayer de l'engluer dans la sève pour pouvoir repousser l'attaque. Donc cette sève sort et forme des pralines.
Okay. Ça me fait penser aux nombreux épicéaires, donc forêts d'épicéaires du Mont-Lozère, qui sont régulièrement, on voit les troncs d'arbres, exsuder un jus qui est noir. Sombre. Est-ce que c'est une réaction de l'arbre ou c'est lié aux champignons?
Je pense que c'est un mélange de sève et de champignons qui provoque cette coloration noire. C'est vrai que souvent, les épicéens, on les voit exuder de la résine.
Ouais.
Des fois, c'est pas grave. Hein, c'est juste la fissuration de l'écorce. Au début, un arbre, il a l'écorce lisse. Et puis après, en vieillissant, elle se craquelle, elle devient fissurée. Et parfois, on peut voir des écoulements de résine à la base de ces fissures, sans qu'on puisse qualifier un problème sanitaire
Alors, c'est pas vraiment de la résine, c'est plutôt comme du tanin, en fait, très noir. Et je me suis demandé si c'était pas lié aux champignons, là, ce que tout le monde appelle le fomès, qui s'appelle...
Je pense pas. Non, le fomès, il a des... Enfin, son expression, elle est quasiment invisible.
Ah ouais.
Ouais. Sur l'épicéa, elle provoque la pourriture de cœur.
Ouais.
Mais on peut pas attribuer ces coulures noires, effectivement, forcément au fomès.
Et voilà.
Voilà. J'ai une autre question. Parce qu'on est souvent, je pense, au Parc National, on est souvent sollicité par rapport à la santé des épicéaires du Mont-Lozère, qui sont, comme tu le disais, un peu pas sur la sellette, mais pas loin du point de bascule. Quelles sont les solutions en dehors de cette fameuse coupe rase pour essayer de changer la donne sur ces forêts qui peuvent être vraiment atteintes vraiment très atteinte.
Ouais. C'est la coupe rase, en fait, c'est vraiment la solution extrême. Hein, c'est quand on voit qu'on ne peut plus, on n'arrive plus à récupérer le peuplement. Sinon, c'est vrai que dans la mesure du possible, je pense qu'on a tout intérêt, notamment en altitude, avec des conditions climatiques difficiles, d'essayer de faire perdurer le système le plus longtemps possible avec les arbres sur pied. Bien sûr, essayer de récupérer tout ce qui est encore récupérable, mais toujours garder une ambiance forestière pour favoriser la régénération naturelle, qui va être à base d'essences normalement variées. Hein. Derrière une pécière en altitude, ça peut être du hêtre, ça peut être du sapin, il peut y avoir aussi quelques pins en milieu plus clair. Donc, si possible, on essaye de faire traîner les choses pour essayer de renouveler la forêt naturellement. Maintenant, il faut avouer que si vraiment le dépérissement est massif et irréversible, pour le propriétaire, le problème, c'est que c'est une perte économique assez importante de voir ces arbres rougir sans les récupérer. Donc parfois, malheureusement, on est obligé d'aller sur des solutions un peu plus radicales. Après, on essaye aussi de travailler sur ce que l'on appelle l'enrichissement des forêts, c'est-à-dire devancer un petit peu le problème. On a une forêt qui est monospécifique, à base d'épicéa. L'enrichissement, c'est profiter de quelques trouées, justement, dues par une tempête, un scolyte, etc., pour réimplanter d'autres essences qui vont bénéficier de l'ambiance forestière sans être obligé de tout raser le peuplement.
Oui, c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer pour le châtaignier, qu'on voit qu'il pue en station à basse altitude, en dessous de 500-600 mètres d'altitude, on voit qu'il souffre énormément. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer planter des essences plus adaptées au réchauffement climatique, justement
Si. On a d'ailleurs fait quelques essais d'enrichissement, comme ça, autour du Pompidou, on a essayé d'implanter des essences variées. Je crois qu'il y a du cèdre, il y a des sapins méditerranéens, il y a des chênes, il y a des merisiers, il y a des sorbiers. Dans des zones où le châtaignier commence à être vraiment mal en point. Donc on a commencé à tester un petit peu cette technique qui n'est pas aussi évidente que ça, hein, parce qu'on plante un nombre d'arbres assez réduit dans des massifs, et donc ça veut dire que là où on a planté, il faut pouvoir le retrouver un certain nombre d'années suivantes. C'est un petit peu plus difficile qu'un reboisement classique où on a toute une parcelle, on sait que les arbres sont là, mais c'est une technique qui a priori est en voie de se développer.
Et là, au Pompidou, qu'est-ce que ça donne du coup pour le moment ?
Alors, c'est relativement récent, ça, c'est un essai qui date de 4 ou 5 ans. Mm-hmm. Ben, on s'aperçoit quand même que les châtaigniers, en fait, on va dire, ils ont un peu du mal à mourir. Donc, en fait, même si la tige principale est sèche, ils ont toujours tendance à rejeter, à provoquer une certaine ombre qui, parfois, peut être préjudiciable aux jeunes plants. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut peut-être améliorer, nous, dans la technique. C'est quand même planter en enrichissement, oui, mais là où on a quand même suffisamment de lumière pour pouvoir faire pousser des nouveaux arbres, parce que, voilà, l'ombre du châtaignier, c'est quand même une ombre qui est assez dense et qui nuit un petit peu à l'installation des jeunes plants. Donc ça serait peut-être un des premiers renseignements que l'on a sur ce chantier un peu test. Et puis après, voilà, c'est aussi on sait que ce genre de chantier, c'est un suivi qui est régulier et important et qui doit être fait par le propriétaire vraiment de façon assidue si on veut se donner un peu des chances de réussite.
Beaucoup d'observations. Oui. D'accord. Sur le châtaignier, juste pour préciser, on parle bien du châtaignier sauvage, le châtaignier forestier, pas le châtaignier fruit. Ce n'est pas le verger dont on parle. Et tu disais, oui, qu'il a une tendance à mourir difficilement. Mais de toute manière, même quand il rejette, parfois, certains même propriétaires pensent « Ah, c'est bon, en fait, il survit. » Mais en fait, non. C'est une stratégie, en fait, de défense. Il rejette beaucoup, mais en fait, quelques années après, il sera de toute manière malade. Là où il n'est pas implanté de manière idéale, quoi. Souvent, ouais, on tisse en mètres d'altitude. Quoi.
C'est ce que l'on peut craindre, quoi. Effectivement, le châtaignier, hein, quand on coupe un châtaignier, généralement ça rejette très vigoureusement, mais s'il était en mauvais état sanitaire avant, on va avoir quelques années de, on va dire, un peu d'illusion, mais malheureusement sur le long terme, et si le climat continue à se réchauffer comme on nous l'annonce, a priori ça va pas aller en s'améliorant, quoi. Donc le châtaignier n'aura plus sa place là où il était avant. On le remarque, hein, de toute façon, ce sont les zones les plus basses en altitude ou les zones les plus mal exposées, c'est-à-dire les versants sud, ouest, les versants chauds, où le châtaignier dépérit en premier. Et puis, ce phénomène remonte en altitude et même sur des expositions des fois meilleures.
Si je suis un propriétaire forestier ou un usager de la forêt, un chasseur, un randonneur, un vététiste, et que je détecte un problème sanitaire, comment je fais du coup pour vous en faire part, pour faire remonter ce problème-là ?
Ben là, en fait, tout simplement, il faut nous contacter, hein, contacter le CNPF ou l'ONF si c'est en forêt publique, mais de toute façon, ou l'un ou l'autre, on se passera l'information. Alors bien sûr, on ne se déplace pas pour un arbre malade, mais quand on a vraiment des problèmes sanitaires qui commencent à inquiéter, ben effectivement, on va voir. On va voir, on essaye de trouver l'origine du problème et si possible, d'apporter des solutions, mais il faut avouer que les solutions en termes de santé des forêts, c'est compliqué. Je tiens à préciser quand même que moi je travaille dans un organisme forestier, donc on ne s'occupe pas des problèmes sanitaires qu'on peut trouver dans les parcs et les jardins, parce que sinon on serait tout de suite débordé. Hein, j'ai mon tuya qui est malade, j'ai mon camélia qui va pas bien. Donc voilà, on s'en limite quand même au domaine forestier.
Il y a Alain Baraton pour ça.
Qui est Alain Baraton ?
Alain Baraton, c'est le jardinier de Versailles qui fait des chroniques sur France Inter depuis des années, et qui est spécialiste de tous les végétaux d'ornement qui sont malades, et il répond à toutes les questions des auditeurs.
Ouais, en matinale le dimanche. Voilà. Mais restez sur Radio Barthes.
Et justement, où est-ce qu'on peut trouver des renseignements sur la santé des forêts occitanes ou françaises?
Alors en fait, il y a le site du ministère hein, sur agriculture.gouv. Là. Mm-hmm. En fait, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez santé des forêts.
Oui.
Et tout simplement, vous allez...
Les données officielles.
Ouais. Mais sur le site de la DRAF, il y a des résumés, il y a le bilan de la santé des forêts nationale ou alors par région. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Mm-hmm. Puis après, il y a plein d'autres organismes. Vous trouverez des choses sur le site du CNPF. Sur les sites forestiers, vous trouverez des choses. Mais rien qu'en tapant santé des forêts sur votre moteur de recherche.
On trouve.
Ouais.
OK.
Et pour finir, dernière question. On a parlé du coup de ce qui se passe un peu en Lozère, sur le nord du Gard. Est-ce que tu peux nous donner un peu une vision de l'état des santé des forêts au niveau français, mondial? Enfin, je ne sais pas si tu as des éléments à nous donner.
Et toi, ton avis aussi?
Au niveau national, il y a des bilans qui sont faits avec des choses qui ne sont pas toujours très drôles. Hein. De toute façon, quand on parle santé des forêts, c'est pas là où on rigole le plus. Au niveau national, le dernier gros coup, c'est vraiment les épicéas. Hein. Il y a eu une mortalité très, très, très importante en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'est de la France, et qui n'est pas finie, qui remonte plus haut en altitude, qui va aussi dans les Alpes. Donc là, c'est vraiment le phénomène de ces dernières années. On a le chêne qui... le chêne, c'est quand même l'arbre emblématique... des forêts françaises, hein, on pense à la chênaie de Colbert. Le chêne, c'est une essence qui, aujourd'hui, dans sa région naturelle, hein, centre de la France, ne va pas très bien. Pas très bien, notamment à cause du réchauffement climatique et des stress hydriques répétés.
Oui.
Donc, on a des chênaies qui sont en forte dégradation.
Oui, c'est ce qui est observé aussi dans le Gard. Hein. Le département santé des forêts note sur le chêne vert, qui pourtant l'essence emblématique de résistante à la sécheresse, observe des dépérissements depuis quelques années.
Il y a des choses qui sont assez étonnantes. On parle du pin sylvestre comme étant une essence très rustique, très rustique, très résistante. Il y a des secteurs où le pin sylvestre est en très grande difficulté, dans les Alpes du Sud. Il y a des dépérissements très importants. Là, plus récemment, et plus proche de nous, en Auvergne, dans le Brivadois, autour du Brivadois, tous les pins sylvestres sont en train de rougir. Une grande majorité des pins sylvestres sont en train de dépérir. Donc là, c'est quelque chose qui nous surprend un petit peu quand même, parce que pour nous, le pin sylvestre, c'était vraiment l'essence rustique et on s'aperçoit qu'il y a des limites à tout. Mm-hmm. Et que quand les conditions climatiques et notamment les stress hydriques se répètent d'année en année, on a des soucis. Généralement, avec les feuillus, on a des dépérissements qui sont un petit peu plus lents parce que les espèces feuillues vont commencer, comme les chênes, hein, ils vont commencer à perdre des branches, etc. Ils vont raccourcir leur houppier, mais ils vont continuer à avoir des feuilles. Sur les résineux, bien souvent, l'arbre il résiste, et puis l'année de trop, c'est l'année fatale, et là, les arbres, ils claquent d'un coup.
D'accord.
On va dire que c'est plus brutal sur les résineux, généralement, que ça ne l'est sur les feuillus. Une résilience peut-être un peu plus importante ça vient de la physiologie de l'arbre, quoi, en fait.
Hein. Ah, juste pour terminer sur une note positive, est-ce qu'il y a des arbres de la forêt française qui, au contraire, tirent leur épingle du jeu de ce changement? Moi, je pense notamment au cèdre, je le vois dans ses veines. J'ai l'impression que c'est lui qui s'en tire le mieux dans les versants sud. Alors, c'est effectivement pas une essence autochtone, mais force est de constater que c'est vraiment un arbre qui a l'air d'être adapté à ce changement climatique. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Le cèdre, effectivement, et notamment dans les Cévennes, hein, on le pressent un petit peu plus présent à l'avenir, notamment pour remplacer un petit peu nos châtaigneraies. Il ne faut pas s'imaginer qu'on aura une cédrée monospécifique. Mais par contre, ce qu'il faut bien apprécier aussi, c'est que le cèdre, quand on regarde de près, il n'est pas indemne de problèmes sanitaires. Moi, j'ai à l'image un peuplement là sur, je crois que c'est sur la commune de Saint-Frézal, devant Talon. À la sortie de l'hiver, une cédrée âgée de 30-35 ans qui avait perdu toutes ses aiguilles. le gestionnaire pensait que les arbres étaient morts. En fait, on s'est aperçu qu'ils avaient des petits bourgeons verts. Et effectivement, ils ont refeuillé, ils ont refait des aiguilles. Mais on va dire que ce genre de phénomène, si ça se produit régulièrement, eh bien, c'est sûr que les arbres, ça les met en difficulté. On a des problèmes de fissures sur les troncs avec des écoulements de résine assez importants. On a des problèmes de fomesse. Donc, on va dire que le cèdre, c'est pas l'arbre miracle. Je crois que des arbres miracles, on n'en a pas. Pour nous, ce qu'il faut, ce vers quoi il faut s'orienter pour l'avenir, c'est surtout d'essayer d'avoir des peuplements plus mélangés. Oui. De plus mettre tous ses œufs dans le même panier, ne plus dire je vais faire une cédrée, je vais faire une douglasée, je vais faire une chênaie. C'est d'essayer de composer un petit peu et avec le naturel, en le mélangeant de l'artificiel et puis surtout en favorisant le mélange d'essence.
C'était exactement à ça que je pensais hein, quand je parlais des cédrés qui me marquent l'esprit. C'est celle notamment, peut-être certains connaissent, hein, entre le col de la Croix de Bertel et Vialas, le vallon du Rio Tor, il y a une grande cédrée qui a l'air presque spontanée, issue sans doute de quelques arbres semenciers d'époque, et qui s'est implantée sur des versants inaccessibles et inexploitables, parce que très très rocheux, et ça donne vraiment l'impression qu'on est ailleurs qu'en Cévennes. Donc quand on voit ce versant, on pourrait dire envahi de cèdre, mais en fait, voilà, le cèdre a trouvé sa place, il est bien, il est en mélange avec les essences autochtones, et c'est aussi ce qu'on privilégie, hein, effectivement, on peut planter des essences exotiques, mais il ne faut pas oublier les autochtones pour maintenir toute la faune, toute la flore qui est liée à ces essences autochtones. Et c'est un peu, voilà, moi je trouve assez intéressant d'observer cette évolution qui est malheureusement pour certains, mais moi je trouve que c'est la vie qui est comme ça, elle est faite d'essences exotiques qui viennent d'ailleurs, qui vont aider peut-être à passer le cap de ce changement. On ne pourra pas faire sans, j'ai l'impression. Moi, j'ai du mal à y croire, en tout cas.
C'est une des voies pour l'avenir. Hein. C'est d'une part, effectivement, utiliser quelques essences dites exotiques qui nous semblent adaptées dans le cadre de l'évolution climatique. Et tout à l'heure, on parlait des enrichissements. En fait, ces enrichissements, quand on fait des petits bouquets d'arbres au milieu de forêts un petit peu dépérissantes, l'espoir, c'est peut-être pas tant d'avoir des jolis arbres dès la première génération, mais finalement qu'avec le temps, la sélection se fasse et que les meilleurs puissent l'emporter et permettent par la suite de se régénérer naturellement. Quoi, hein, en fait, ces enrichissements, on pourrait les considérer comme des îlots de régénération, mais pour la génération suivante. Quoi.
Merci beaucoup, Jean-Yves, d'être venu nous avoir apporté toutes ces informations. Je vous propose qu'on vous laisse les coordonnées de Jean-Yves du CNPF, enfin des différents correspondants observatoires lausariens et gardois sur le site de Radio Barthes. Comme ça, si vous avez des questions, des observations à faire remonter, n'hésitez pas. On vous propose maintenant une petite pause musicale. Virginie, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ?
Eh bien, encore une chanson autour de la forêt. On les a pas encore toutes épuisées. Donc, Forest of Gold de Mazd. retrouve donc Aymeric Sulmont, garde-moniteur du Parc national des Cévennes, qui va nous faire sa rubrique Plantes et animaux des bois. Et j'imagine que donc l'intervention de Jean-Yves Magot sur la santé des forêts t'a inspiré plein de choses, Aymeric.
Oui, il y a du lien.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Eh bien, bonjour à tous. Moi, je voulais vous parler de petites expériences que j'ai faites cet été. Toutes simples, des habitudes qu'on a en tant que garde-moniteur de traîner en forêt. Et quand on voit un tas de grumes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un tas de grumes, mais les forêts, quand ils sortent le bois, les forestiers, quand ils sortent le bois de la forêt, ils font des tas de troncs, ça s'appelle des grumes. Et ces tas de grumes, nous attirent comme des aimants naturalistes, parce que quand c'est la bonne période, notamment en plein été, et avec la bonne chaleur, on se pose devant ces grumes et on observe, tout simplement. Et on voit plein de trucs voler. Et notamment quand on court après la fameuse Rosalie des Alpes, cette extraordinaire coléoptère gris, bleu, noir, qui est protégée. On aime bien traîner autour des grumes de hêtre. Et si elles sont en plein soleil, elles émettent une odeur qui est extrêmement attractive pour les rosalies et qui viennent pondre. Alors ça, c'est un grave problème parce qu'elles pondent, en gros, dans du futur bois de chauffage. Et donc, celui qui fait son bois de chauffage là-dedans, en fait, il se chauffe à la rosalie. C'est un peu dommage. Et il y a eu des recherches, enfin des propositions un peu compliquées pour essayer de sauver la rosalie de ses pontes à perte. D'essayer de proposer de sortir le bois le plus tôt possible des forêts, et ça reste de toute façon une prescription qui est valable pour éviter que le bois se charge en plein d'autres ravageurs du bois. Et je pense à un autre ravageur du bois que j'ai rencontré pour la première fois cet été, et notamment, je ne sais pas si tu le connais, Jean, le Sirex géant.
Oui.
Est-ce que tu vois ce que c'est?
Une espèce de guêpe un petit peu grosse avec un très long dard.
Ouais, c'est assez extraordinaire parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, un nouveau frelon originaire de je ne sais où. C'est énorme. C'est plus gros que le frelon européen et ça vient pondre dans le bois. Donc ça a effectivement une sorte de rostre à l'arrière qui sert de plantoir à œuf, un ovipositeur, on appelle ça, et qui est doté en fait d'une tarière. Donc ça peut percer le bois, et notamment le bois c'est dans les résineux là que je l'ai vu, et elle va pondre des œufs qui vont petit à petit, au bout d'un certain nombre de mues, faire une larve qui peut atteindre de 3 à 4 cm de long, très grosse, très ventrue, gros comme un petit doigt. Très appétissant pour ceux qui aiment manger les larves, mais je pense notamment au pic noir. Mais c'est assez extraordinaire cet insecte. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois cet été. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. En fait, quand on se voilà, attardez-vous sur des grumes en plein soleil, que ce soit des résineux ou des hêtres ou d'autres essences, il y a toujours plein d'insectes qui volent, qui viennent pondre ou qui viennent aussi capturer d'autres insectes qui viennent pondre. Donc c'est un vrai festival de bestioles. Je pense il y a beaucoup de buprestes. Alors je ne sais pas si vous connaissez le buprest. Buprest, c'est un coléoptère. On appelle ça le bulldog des coléoptères parce qu'il a le nez tronqué. Voilà, c'est quelque chose de trapu qui ressemble un peu à un écusson très allongé. Et la plupart sont très décorés de couleurs métalliques, vert, bleu, rouge, ou cuivré même. Et ils viennent beaucoup pondre dans les grumes de toute essence d'ailleurs. Donc voilà, c'était une petite proposition pour venir vous inviter à farfouiller les grumes en plein soleil. Mais il ne faut pas monter dessus, hein. Je vous rappelle que c'est complètement... c'est très très dangereux, les tas de grumes. Il faut mieux les regarder de loin. Voilà, ça c'était la petite anecdote sur le Sirex géant. Je vous invite à voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment épatant et c'est gros comme le petit doigt. Et puis une autre anecdote de cet été, qui concerne plutôt une plante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des cuscutes?
Pas du tout.
Non.
Ah mince. Ouais. Voilà, apprends un truc sur la
tu vas nous
bon, et ben cet été dans le cadre de nos missions, on a aussi des inventaires sur les communes qui demandent un atlas de biodiversité communale. Donc on intervient, on fait des inventaires, notamment botaniques. Moi je fais aussi les mousses et des choses comme ça, les insectes. Et là on est tombé par hasard, on était plutôt sur des inventaires de criquets sauterelles, donc avec des détecteurs ultrasons et tout ça. Et je suis tombé le long d'une ripisylve de la commune de Saint-Germain-de-Calberte qui est candidate pour faire ses ABC sur une petite plante qui est insignifiante, en fait, qui n'a pas de feuilles. Ça ressemble à des longs filaments de couleurs assez colorées. C'est soit jaune, soit rouge, soit rose, enfin, des couleurs assez chouettes. Des longs filaments tout fins, sans feuilles. Mais par contre, il y a des petits glomérules, des petits amas de toutes petites fleurs blanches ou jaunâtres qui sont la seule partie visible de la plante quasiment. Et ça peut être d'une telle densité que ça fait quand même un enchevêtrement de fils, comme si on avait égaré une pelote de fils de couture, quoi. Et donc si vous voyez ça, c'est que vous avez vu une cuscute. Et à cet endroit, à Saint-Germain-de-Calberte, dans la vallée du Gardon de Saint-Martin-de-Lensuscle, il y a une cuscute qui était nouvelle pour le parc. On était très contents. C'est la cuscute des champs et qui s'attaque à toutes les plantes de bord de ripisylve ou de décombres, de genre des... Alors, je vais vous donner quelques plantes, des amarantes, des liserons, ça peut être aussi des graminées. En fait, elle n'a pas d'hôte privilégié, elle s'attaque à tout ce qui y vient. Mais certaines cuscutes ont été étudiées parce qu'elles ont un hôte quasi unique ou à peine 2-3 hôtes. Et donc, souvent, elles s'implantent d'une année sur l'autre au même endroit. Mais quand elle arrive dans un nouveau lieu, ben, il faut qu'elle trouve son hôte et elle n'a que quelques... une semaine ou deux au moment de la sortie de sa graine pour chercher son hôte, sinon elle n'est plus capable de produire la chlorophylle qui lui est nécessaire pour pousser. Il lui faut absolument un hôte. Et ils ont mis en évidence que cette plante sentait. Elle avait un nez. Elle était en tout cas capable de détecter à l'odeur, notamment, les plantes hôtes qui lui convenaient, et donc de se diriger avec ses filaments jusqu'à planter ses suçoirs, et après, hop, la partie était terminée. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite plante, parce que c'est une plante parasite, certes, mais voilà, elle a un petit côté amusant, puis c'était une espèce nouvelle pour le parc, et j'apprends que les cuscutes, on en a très peu en Europe, mais il y en a beaucoup dans les tropiques et il y en a beaucoup qui s'attaquent aux arbres carrément. Donc méfiance, quand on importe des arbres venus d'ailleurs, on peut implanter aussi les parasites qui vont avec. C'est bien connu des forestiers, mais c'est toujours il y a des grosses précautions à prendre quand on importe un arbre. On l'a bien connu quand on a importé des greffons de châtaignes venus d'Italie, c'est comme ça qu'on a ramené, ou même au départ venu de Chine, qu'on a ramené le synips. Et donc c'est toujours, voilà, c'était une manière de faire attention à, justement dans cette période où on introduit plein de choses, de faire gaffe à ce qu'on... Oui, parce qu'on peut importer des plantes qui deviennent un peu encombrantes derrière. Voilà.
Pour les Merci.
Notes cuscute et Syrex géant.
Effectivement, c'est vrai que on parle de santé des forêts, on parle du climat, on parle de. Mais un des gros dangers de la forêt, c'est aussi effectivement l'importation d'organismes invasifs qui sont bien dans leur pays, là-bas en Chine ou aux États-Unis, qui ont leurs parasites eux-mêmes et qui arrivent à s'auto-contrôler. Quand ils arrivent sur notre territoire où il n'y a pas le parasite, eh bien. Cette maladie, ce champignon, cet insecte, il a tout loisir de se développer sans pouvoir le contrôler. Donc, effectivement, c'est un des gros soucis de la santé des forêts, c'est l'importation d'organismes invasifs, que l'on nous demande d'ailleurs de surveiller.
Vigilance donc. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations passionnantes. Merci Aymeric, merci Jean-Yves Magot du CNPF. Et à très vite.
Oui, et vous pourrez retrouver donc l'émission aussi sur en podcast sur radioboartas.net et sinon toujours sur Sensetfm. Merci, au revoir.
Salut.
Au revoir.
En forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Boartas.
Sans cette